c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que ça ne veut pas dire que c'est terminé, achevé. Ça veut dire que c'est une structure qui arrive à un certain accomplissement, hein, comme dans un acte. C'est justement l'élément, le point oméga, c'est justement l'élément que le sujet doit ajouter. C'est ça, cet objet qui est recherché par le sujet. Et le paranoïaque, qu'est-ce qu'il fait quand il est dans son narcissisme qui ne marche pas bien? Il n'arrive pas à construire cet objet pour achever son discours. Il n'arrive pas à achever le plan infini pour en faire un plan projectif. Il n'arrive pas à achever la droite infinie pour en faire une droite, un cercle. Il n'arrive pas à achever, n'est-ce pas? Et Freud nous dit dans la conférence 26, il dit, c'est la théorie d'Abraham, c'est Abraham qui est le premier à dire ça, ça paraît assez convenable, le sujet dans la névrose narcissique, eh ben, il est en proie au lieu de rencontrer un point d'achèvement, de pouvoir, c'est ce qu'on va appeler nous, vous voyez, pour achever une séquence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une métaphore. Vous voyez, quand vous êtes en train de vous disputer, quand vous êtes en train de vous disputer avec votre conjoint, ou quand vous avez des séries comme ça infinies où on n'arrête pas de faire de la métonymie sans métaphore, et bien à un moment donné, il faut apprendre à tourner la page. Vous voyez, mais quand on tourne la page, tout n'est pas dit. Alors le paranoïaque, il ne supporte pas ça. Il voudrait que tout soit dit. Vous voyez, il faut que même les juifs soient reconnaissables avec une étoile jaune et un tatouage, parce que pour le paranoïaque, c'est insupportable qu'il y ait des métaphores, qu'on ne dise pas tout. Et que tout soit pas écrit quand on tourne la page. Bon. Donc la métaphore, et même mieux que la métaphore, je pense que dans les mathématiques, ça s'appelle pas métaphore, il n'y a pas de métaphore en mathématiques, mais c'est pas mécanique, parce que la façon de tourner la page dans les mathématiques, c'est d'inventer un nouveau caractère. C'est justement ce qu'on a... À cette occasion, moi, je propose de parler, comme Lacan l'explique dans Radiophonie, de condensation. Il dit qu'il a utilisé la métaphore poétique pour illustrer la condensation freudienne au service du refoulement. Vous voyez que là, c'est au service du refoulement primaire, du refoulement premier, à la limite du premier et du primaire, le refoulement originaire. Il ne s'agit pas dans la psychanalyse de régresser et d'aller retrouver comme ça du primitif. C'est une théorie du transfert complètement désuète. Bon, Freud s'est posé la question, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ce transfert? Qu'est-ce que c'est qui vient là et qui pour nous n'est plus du tout quelque chose qui a à voir avec la régression, puisqu'il s'agit de quelque chose qui fait taire le sujet. Quand il rencontre un lieu comme ça où l'objet ne vient pas, il se tait. Là, on est sûr qu'on est dans le transfert. Et qu'est-ce qu'il fait taire? Justement, c'est une grande répétition, c'est un 2 qui n'arrive pas à se fermer en 1. Voyez-vous? C'est la droite ouverte. Et cette condensation, nous dit Lacan dans Radiophonique, qui est au service du refoulement, il ne s'agit pas de jouer de la représentation. Le sujet n'est pas encore en train de jouer de la représentation. Il s'agit de raisons. Et ces raisons, elles se résolvent par la production d'un objet. Et vous voyez qu'un enfant le fait très simplement avec ce que Winnicott a... C'est ça qui est formidable d'ailleurs. Que Winnicott, qui était vitaliste comme Deleuze, plutôt bergsonien, ben Winnicott, par un lien qui peut nous paraître assez mystérieux au travers de Mélanie Klein, il est freudien, malgré son vitalisme, malgré sa lecture, son intérêt pour Bergson. La psychanalyse, ça fait que Winnicott, c'est pour ça que Lacan a sauté là-dessus, il a eu le génie d'apercevoir justement cet acte chez l'enfant avec l'objet transitionnel. Vous voyez, un chiffon, un bout de bois, un déchet, au lieu d'avoir des jolis jouets, mais un déchet, quelque chose d'absolument banal, peut avoir cette fonction que le paranoïaque ne trouve pas à réaliser. Et le paranoïaque, il est tout le temps en train de continuer, et il vient buter, nous dit Freud, sur l'ombre de l'objet. Et cette ombre de l'objet, à partir de l'ombre de l'objet, là, il y a une régression. Et il y a quelque chose de destructeur. Bon. Et d'ailleurs, moi, je pense que dans la civilisation occidentale, l'industrie est destructrice. Et l'écriture, l'industrie vient bien de l'écriture, c'est une écriture mathématique, c'est plus du tout les outils du néolithique. Hein. Nous, notre industrie, notre civilisation, elle a une responsabilité très grave, parce qu'elle est destructrice comme un délire paranoïaque qui échoue sur l'ombre de l'objet, hein, au lieu de rencontrer l'objet et de construire l'objet. Et moi, je prétends qu'il n'y a que dans la psychanalyse qu'on construit l'objet. Ce que je veux dire, c'est que la psychanalyse, c'est le discours qui permet d'achever le discours scientifique, qui, s'il n'est pas achevé, il reste ouvert et il est destructeur, exactement comme un délire paranoïaque. Donc, c'est le lien qu'il y a entre la psychose et la civilisation industrielle, si vous voulez, de mon point de vue. Et c'est de ça dont il est question. Nous avons une responsabilité politique et... Enfin, quand Freud dit que le Ues var solgis verden, son principe éthique est une tâche de civilisation aussi importante que l'assèchement des Uderzé, moi je prétends que effectivement c'est une tâche de civilisation aussi importante que l'assèchement des Uderzé. Je jette la pierre à personne, il faut du temps pour accomplir cette révolution, parce que nous sommes dans une situation révolutionnaire, c'est-à-dire que nous sommes devant cette ouverture qui est ouverte, semble-t-il, depuis le XVIIIe siècle. Ça commence avec les Lumières, ça va aller jusqu'à Hegel, qui achève la métaphysique occidentale, le platonisme, en rencontrant justement une destitution subjective. J'ai retrouvé donc la lettre où Hegel parle de ça à un interlocuteur. C'est dans les lettres de Hegel qui sont publiées en telle. C'est la lettre qui porte le numéro 125. Et donc il dit à un interlocuteur combien il a rencontré cette difficulté, n'est-ce pas, où il pensait être complètement perdu dans ses pensées. Et il dit cette très très belle chose qu'il faudrait que les malins là, qui veulent nous paraître techniciens de la psychothérapie ou de la cognitivité ou de la connerie, tout simplement, eh bien... que tous ces malins, ils pourraient réfléchir en lisant cette très belle lettre de Hegel qui dit à son interlocuteur, qui lui dit « Prenez du recul, reposez-vous, allez-y doucement, mais revenez à votre travail, parce que c'est ce travail qui vous rend malade qui va vous guérir. » Et voilà la tâche de l'analyste, c'est soutenir le désir de son patient, pas du tout pour répondre à sa demande « Je veux de l'aide, je voudrais avoir de l'argent, je voudrais arriver à lire, je voudrais arriver à baiser, je voudrais arriver à, je sais pas, avoir un mari, une femme, n'importe quoi. » On sait que tout ça, ça marche très difficilement à cause de cette difficulté de l'acte et du narcissisme. Et que, de toute façon, il s'agit juste d'apprendre à tourner la page, que le problème va revenir le lendemain, mais que le sujet, en tant qu'il n'est pas psychotique, lui, et en tant qu'il ne dépend pas d'un discours, disons, psychogène, qui le pousse dans des constructions qui n'aboutiront jamais. Vous comprenez ? Le problème n'est pas de se lamenter sur la destruction de la planète par la... Je ne suis pas écologiste. On ne fera pas une bonne science si on ne résout pas ce problème de voir que, entre la parole, qui est l'embrouille du vrai, et la lettre, l'écriture, qui vise au dogmatisme, et même à l'hyperdogmatisme des mathématiques, la psychanalyse s'est allée jusqu'à l'hyperdogmatisme pour construire un objet insensé qui est l'objet qui achève le discours de la science. L'objet A, c'est pas scientifique. C'est pas non plus organique. Voyez-vous, Lacan nous propose un objet de réflexion avec la lamelle, l'idée de raccorder ça au placenta. Mais si vous cherchez à en faire un objet purement physiologique, vous allez faire du Deleuze, vous allez faire des choses très jolies. Bon, mais Deleuze, ce qu'il a raté, c'est qu'il ne voit pas le lien qu'il y a entre cette parole et ces objets de percepte et l'écriture, et que la vérité, rétroactivement, d'une manière rétroactive, va avoir une fonction de direction pour la parole. Il y a toujours un lien entre parole et écriture dans le langage. Parce que dans le langage, il y a toujours un lien entre ce qu'on dit ou ce qu'on écrit et le métalangage. Et pour les uns, le métalangage, ça va être l'écriture par rapport à la parole. Regardez ce qu'on a cru du latin. On a cru qu'on allait faire une langue qui serait... je vous dis, lisez Dante, lisez son traité sur l'éloquence en langue vulgaire, et vous verrez qu'il y a la difficulté pour expliquer que la langue, elle est aussi digne d'éloquence et de subjectivité, la langue commune, la langue vulgaire, la langue qu'on parle... la langue romane, par exemple. Vous voyez, ce qui nous a donné le roman. Et voilà, vous voyez ces questions qui apparaissent, que vous avez là une structure qui s'appelle, que Lacan résume en disant « il n'y a pas de métalangage ». Évidemment, tout le monde tombe dans le panneau, on se dit « bon, ben, s'il n'y a pas de métalangage, bon, c'est qu'il n'y en a pas », puisque c'est une négation qui apparaît classique. Mais Lacan emploie une négation qui n'est pas une négation classique, et qui l'a construite. Il le dit très bien, ça, à propos même de « il n'y a pas de rapport sexuel », il le dit dans la lettre aux Italiens. Vous pourrez lire, dans la lettre aux Italiens, il dit « C'est pas parce que j'ai dit qu'il n'y avait pas de rapport sexuel et que c'est un des énoncés les plus fondamentaux et principes de l'analyse, du discours analytique. Il n'y a pas de rapport sexuel. Lacan dit, c'est pas à vous, il dit ça aux Italiens imaginaires auxquels il s'adresse, puisqu'il fait semblant de s'adresser à trois Italiens, et il leur dit, suffit que vous soyez trois, vous pouvez commencer. Moi j'attends qu'on soit trois et puis qu'on commence. Hein. Donc qu'on soit trois, ou même si je ne suis pas, qu'il y en ait trois qui s'y mettent. Hein. Mais donc il dit, il faut commencer à trois, ça on peut expliquer pourquoi. Il dit, mais c'est pas à vous que je vais expliquer, puisqu'il suppose que ce sont des gens qui ont fait la passe, qui ont fait une analyse et qui sont déjà. Il leur propose d'instaurer une passe pour organiser l'école, leur école. Bon. Et il leur dit, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, d'un air de dire, il y a déjà des gens qui ont tout compris. Et on manque de peau, et le problème n'est pas de tout comprendre, le problème ce serait de bien effectivement voir l'articulation nécessaire de cet acte d'écrire qui consiste à se rendre compte, comme dit Lacan, que c'est pas parce que c'est impossible, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est pas une raison de ne pas l'écrire. Et d'écrire le rapport sexuel, pourquoi? Puisque justement, c'est ce qui ne peut pas s'écrire. Eh bien, c'est ça, c'est là que ça devient mathématique et hyper dogmatique, c'est pas pensable. Il faut arriver à se perdre. Il faut aller jusqu'à l'écrire pour démontrer pourquoi c'est pas inscriptible. Il ne suffit pas de se croire aux décrets ou aux énoncés de Lacan. Lacan nous invite à dire, voilà, écrivez-le. Donc c'est vrai que c'est du métalangage. Le métalangage, on passe son temps, comme le dit Jacobson, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de langage sans métalangage. S'il n'y a pas de métalangage, c'est un code. Un code animal, ce n'est pas la même chose que la parole dans le langage. Le langage, c'est la nécessité du métalangage. Il y a nécessairement du métalangage. Et Jacobson immédiatement ajoute, vous voyez, c'est près de Freud, hein. Il y a nécessairement du phallus, mais il y a la castration. Il y a nécessairement du langage, mais il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'on peut faire la grammaire du français en français, de l'anglais en anglais, de l'espagnol. Donc on peut faire la grammaire d'une langue dans la même langue. Donc c'est illusoire de croire qu'il va falloir fabriquer une langue savante pour faire le commentaire et une langue objet pour s'en servir quotidiennement. C'est la même chose, regardez des choses simples, regardez pourquoi ça a une dimension signifiante, l'argent, le pognon, là, ce qui intéresse tout le monde là, pour se torcher, hein, parce qu'on a tous ça écrasé derrière un paquet de merde sur la tête, là, sur la cervelle qui est crabouillée par ça. Mais regardez, qu'est-ce qui trafique tout le monde là, dans sa petite tête aussi. Comment ?
On n'est pas obligé d'être complètement...
Ah oui, mais enfin, excusez-moi, on n'est pas obligé, mais il y en a beaucoup, c'est pour qui c'est une nécessité. Qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'il y a quand même. Là, quand il dit nous avons l'esprit écrasé par un cataplasme de merde. Alors, ça paraît indécent, mais c'est quand même une chose qu'il faudrait. Si on veut être simplement un peu lucide, se rendre compte, je ne m'exclus pas et j'exclus personne de ça, c'est un fait. Le problème, c'est que l'argent, regardez bien, c'est même. À l'époque, quand Rocard était Premier ministre, quand il y a eu le crash en Extrême-Orient là, des banques, vous savez tout. Il y a des valeurs formidables qui sont parties comme ça dans des circuits électriques d'ordinateurs. Hop, en Extrême-Orient, les banques chinoises, pop. J'ai entendu Michel Rocard, Premier ministre, réputé économiste brillant, nous dire c'est un scandale parce que ces fortunes qui disparaissent comme ça, il y a des gens qui, quotidiennement, ont besoin de cet argent pour se vêtir, pour se nourrir, pour vivre. Et il a raison, mais il était en train de dire c'est un scandale. Vous voyez, les structures freudiennes sont scandaleuses. Et c'est pour ça qu'au lieu de crier au scandale, bon, je ne dis pas qu'il faut s'en réjouir, je dis simplement qu'il faut les étudier. Il faut commencer à rentrer dans cette logique où il n'y a pas de métalangage, où il n'y a pas de rapport sexuel, où le fric, c'est le même, et vous voyez, c'est narcissique dès le début. Il y en a nécessairement deux et c'est peut-être le même. C'est comme la libido, c'est comme les langues, vous voyez. Vous supportez très bien d'avoir une langue écrite et une langue parlée différente et de ne pas vous en apercevoir spécialement tout le temps. Bon, mais si vous devenez freudien, vous allez vous en apercevoir. Ça veut dire que vous allez apprendre à lire et à écrire, à parler, en tenant compte que quand vous parlez, vous voyez, quand moi je parle, je ne lis pas des notes. Parce que pourquoi? Parce que tout ce que je vous dis, je l'ai écrit. C'est écrit pour moi. Cette fonction du « c'est écrit » fait que je peux en parler. Bon. Retour du dogmatisme vers la parole. Mais il faut passer par cet extrême hyper dogmatique de la lettre, voyez-vous, pour achever le processus et au lieu de tomber sur l'ombre de l'objet, au lieu de connaître cette déception qui va être ensuite dégradante, bon, je ne dis pas que ça va m'empêcher de devenir sénile. Hein. Et, moi, je ne me fais pas trop d'illusions. Je veux dire que je note quand même que Freud est mort d'un cancer de la mâchoire et Lacan, plutôt du côté anal, vous voyez que je veux dire, la psychanalyse n'a pas protégé l'inventeur de la psychanalyse et le fondateur de la psychanalyse de cancer.
Non, de leur humanité.
Mais surtout de cancers, justement, qui sont attachés aux deux extrémités du tore, hein, du tore trique, là, c'est-à-dire du tube, et qui sont justement Freud et Lacan, qui sont ceux qui nous font découvrir, à côté de Mélanie Klein, l'importance de ces pulsions, de ces dérives, de ces transformations prégénitales qui sont la pulsion anale et la pulsion orale. Et qui sont des pulsions très peu élaborées, justement. C'est peut-être même pour ça que ça c'est difficile d'avoir prise là-dessus. Enfin, ça fait de la dérive, ça fait de la pulsion, puisque ça fait du cancer. Le cancer, c'est typiquement pulsionnel, au sens du langage. Hein. C'est pas une maladie naturelle. C'est que le corps, il se met à faire autre chose. C'est comme les phonèmes. On prend n'importe quoi, hein, pour faire un objet, un trait, et on fait l'alphabet phénicien. On prend des restes d'un discours ancien et on en fait un nouveau bricolage qui va faire du discours actuel, du système d'écriture. Les phonèmes, c'est n'importe quoi, les sons de la langue, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc ça, c'est le deuxième point, le phonème, on y viendra après. Pour l'instant, je vais commenter le métalangage qu'il n'y a pas. Donc, voilà, le point d'achèvement, il est là. Il est qu'il faut aller jusqu'à construire dans ce mouvement pulsatif un objet qui est un objet que Lacan introduit comme une lettre, parce qu'il a vu que dans la compactification, il suffit, comme le dit un mathématicien comme Alexandrov, ils sont étonnés, là, les mathématiciens qui découvrent ça. Il y a surtout beaucoup de Russes qui font de la topologie dans ce domaine-là, dans les années 30, dans les années 20 et 30, et ils sont très étonnés, ils disent, c'est quand même étonnant, cette lettre, elle n'a pas de sens. Cette lettre qu'on rajoute, vous voyez. Ce que j'essaye de vous donner là, c'est une indication pour que ça freine un petit peu une articulation. La lettre, vous voyez, la lettre oméga que j'ajoute, c'est le point B. Hein? C'est le point B, et vous pouvez commencer à piger pourquoi le point B est quelque chose qu'il faut ajouter comme ça uniquement. Il faut en ajouter un, et on n'a pas besoin de savoir autre chose que quoi. Que ce point B, il est justement le corrélat de cette droite infinie parallèle qui ne rencontre pas la droite D. C'est ce qui fera dire à certains que le point B, il est à l'infini, puisque les deux points extrêmes que rencontre delta quand ils croisent D, alors qu'ils ne le croisent pas, et bien justement, ça se passe à l'infini. Donc le point B, c'est aussi bien l'infini négatif que l'infini positif. Si vous organisez comme ça la droite à l'infini en l'orientant vers un infini plus et un infini moins, vous voyez bien que c'est les deux extrémités de la droite, hein, le plus infini et le moins infini qui se rejoignent pour faire oméga. Bon. C'est peut-être une chose que vous vous êtes posée, savoir pourquoi est-ce qu'on dit que à l'infini, l'infini positif rejoint l'infini négatif. Alors, dans le freudisme, nous allons produire une fermeture plus articulée, plus élaborée, du même ordre que cet achèvement de la droite infinie qui est quelque chose d'extrêmement sommaire et qui est un jeu d'écriture, hein. Notez-le bien, c'est un jeu d'écriture, ça n'a aucun sens. Ça peut prendre de la signification dans un discours si on s'en sert, si le discours est en exercice entre des sujets qui s'en servent, ça peut avoir une certaine signification, mais ça n'a aucun sens. Bon, alors je veux maintenant effacer ça à propos de l'achèvement pour vous parler de cette droite infinie en relation avec quoi ? Avec ce qui nous intéresse, c'est Joyce. Qu'est-ce qui fait dévier Lacan de sa route ? Et qu'est-ce qui l'embête depuis plusieurs années ? C'est que Lacan va nous introduire dans cette leçon numéro 2 du symptôme, il va introduire le trèfle. Le nœud trèfle, au lieu de parler du cas Schreber comme un échec. Non, donc ça c'est mieux pour bien. Je vais dessiner d'abord le trèfle. Bon, le trèfle. Je l'avais dessiné la semaine dernière à cet endroit-là. Bon, Lacan, dans cette deuxième leçon, va nous dire le nœud trèfle, c'est la mise en continuité du borroméen. les trois ronds du Borroméen. Alors là, dans les reproductions du séminaire, là, dans les différentes éditions, c'est très très mal foutu. C'est très mal expliqué. C'est très très mal expliqué. Parce que Lacan, il a une petite difficulté à ce moment-là, c'est pour essayer de rendre compte d'une manière géométrique de cette mise en continuité. Comment est-ce qu'on peut mettre les trois ronds du Borroméen, n'est-ce pas, en continuité pour faire un E-trèfle ? Ça, c'est le produit de deux mises en continuité dans le Borroméen, le trèfle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que c'est compliqué à expliquer pour Lacan ? Parce que Lacan, il l'a aperçu dans ce que les Américains appellent le Skene calculus. Ça vient des travaux de Conway. Celui qui a inventé ça, c'est Conway. Conway, c'est un mec absolument admirable, renversant, génial. C'est un type, il fait surtout de l'analyse combinatoire, il fait des combinaisons. Il est plutôt un computationnel, voyez-vous. Mais croyez pas qu'un type comme Turing ou un type comme Conway sont des débiles, parce que ce sont des mecs qui sont des formidables, disons, encodeurs et décodeurs, et que Turing va construire la machine de Turing qui n'est pas un ordinateur, qui est le software de l'ordinateur, qui est le principe d'engendrement, n'est-ce pas, d'un processus qui ressemble à du langage et qui ressemble à un calcul, mais calculé dans la langue, dans le langage. Faire de la grammaire, c'est pas du tout mécanique. Il faut être le cercle de Vienne ou Chomsky pour croire que... D'ailleurs, Chomsky a démontré que ce n'était pas réductible à une machine. C'est un de ses théorèmes principaux. Avant de faire Aspects dans Structure syntaxique, il montre bien qu'on ne peut pas réduire la grammaire et la langue à un processus markovien. C'est comme ça qu'il s'exprime. Ça veut dire que ce n'est pas un processus automatique, n'est-ce pas, de répétition récurrente. Et que la difficulté de la grammaire, vous voyez, elle est justement quelque chose que le paranoïaque ne comprend pas. C'est qu'on peut très bien imaginer une machine qui produirait d'une manière récurrente toutes les phrases du français qui sont correctes. Donc le problème, c'est que cette machine, c'est ce que montre très bien Chomsky sur des exemples, elle produirait plus que les phrases du français. Elle va produire toutes les phrases correctes, plus d'autres. Et que ce qui nous épate, vous voyez, comme quoi la parole, c'est les embrouilles du vrai, comme nous sommes des sujets pris entre la parole et l'écriture, nous, nous ne sommes pas des écrivants systématiquement toutes les phrases qu'on pourrait écrire. D'ailleurs, c'est la différence entre un mathématicien aussi et un ordinateur. Et c'est un point qui fait qu'il y a beaucoup d'équivoques autour de cette question de l'informatique et des mathématiques. C'est pas la même chose, pourquoi ? Parce que les mathématiques, c'est dans le langage, c'est dans la langue. Et que justement, la grammaire aussi, elle est dans le langage et dans la langue, et on s'aperçoit que on peut construire un appareil. Peut-être que mon corps est une machine qui produit tous les énoncés possibles du français, mais si jamais il était que ça, il en produirait aussi d'autres. Vous voyez, c'est ça la fonction de la phrase célèbre de Chomsky, sur laquelle Milner ironise un petit peu dans son article sur l'exemple et le cas clinique. Hein, c'est un très joli article de Milner, où à mon avis, il fait un peu fausse route. Mais il dit que c'est une phrase impossible, mais que maintenant tout le monde la répète depuis que Chomsky l'a produit. Alors il se moque un peu des gens qui parlent du cas clinique. Il n'a pas complètement tort de se moquer. Mais alors, la phrase, vous savez, c'est des idées vertes qui dorment furieusement. Hein. Si vous faites une machine qui produit toutes les phrases correctes du français, il n'y a pas moyen de l'arrêter, de lui dire stop à un moment donné. Il y a un amendement, comme on dit dans les assemblées publiques. On va faire un amendement. Ben non, il n'y a pas d'amendement pour un processus markovien. Ça veut dire simplement que c'est la très belle définition de Lacan qui donne cette définition de la logique. C'est que la logique, c'est l'art de montrer des nécessités de discours. Et si vous avez quelque chose qui est un espèce de discours dégradé et mécanique, ben alors là, les nécessités, elles sont terribles. Et justement, elles feront produire à une machine des choses que vous ne voulez pas. Alors c'est justement ça qu'on ne peut pas... C'est ça qu'on peut pas. C'est ça qui fait la difficulté et l'intérêt des structures algébriques. Parce que regardez, justement, c'est pas parce que Joyce, c'est pas parce que j'ai eu ce débat avec Porte l'autre jour et Biener à la soirée de topologie d'Alex Lacanienne. Si Joyce fait une erreur, c'est pas une opération admise. Parce que si vous admettez la possibilité d'inverser un croisement tout seul, sans précision, vous défaites tout. Donc, si vous n'êtes pas mathématicien, géomètre ou grammairien, appelez ça comme vous voulez, si vous n'êtes pas sujet Si vous apprenez une géométrie, dans votre géométrie, vous autorisez l'inversion des croisements, sans précision. Alors que l'homotopie, c'est l'inversion des croisements propres, des croisements d'un fil avec lui-même, exclusivement. C'est une condition pour pouvoir employer l'inversion des croisements. Cette opération que fait Joy, c'est une erreur, parce que si on l'introduisait, on défait tout. On défait même les enlacements. Il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, il y a une question. La question comme ça, métonymique, elle est boulimique en quelque sorte. Elle va déborder la structure. Et c'est ça que le sujet enfant va apprendre en faisant de l'agrammatisme. Le sujet enfant, il fait comme le linguiste, vous savez. Il apprend la langue, et c'est même pour ça qu'il n'y a pas de linguistique scientifique. Il apprend la langue en faisant de la linguistique, en faisant comme le linguiste. Il fait ce qu'on appelle à une période de sa vie de l'agrammatisme. Il prend des formes, des patterns, des schémas de langue, et puis il va les appliquer. Vous voyez. Allumer, il a entendu s'habiller, se déshabiller. Alors il essaye. Allumer, désallumer. Alors, il y a quelqu'un qui dit non, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Vous voyez, il faut dire éteindre. Bon. On peut monter un escalier et on ne démonte pas l'escalier. On descend l'escalier. Donc voilà, la langue, c'est quelque chose qui est formidable, qui peut s'inclure dans un système formalisé, non seulement formalisé, mais même mécanisé, puisque formalisé, ça fait peur à tout le monde. Donc, il ne faut pas dire formalisé, il faut dire un système d'écriture littérale. Hein, et l'écriture a des lois différentes de la parole. Hein, et il y a des systèmes d'écriture qui vont aller jusqu'à produire des machines. Et l'espèce humaine, c'est une espèce animale qui a rencontré le langage pour survivre de sa prématuration et qui produit des nouvelles machines. Bon, ce n'est pas une raison de confondre tout. De confondre l'organique, le monde de la biologie, la physiologie, le lieu du langage, l'ordre du langage qui se répartit entre parole et écriture, et puis les machines. Et celui qui étudie le mieux cela, c'est à mon avis, c'est Canguilhem. Canguilhem dit que ce qui caractérise l'organisme par opposition à la machine, c'est la monstruosité. Et on pourrait dire que ce qui emmerde le paranoïaque, c'est que la bonne grammaire, c'est une hyper-monstruosité, puisque c'est tout le temps des exceptions qui essayent de survivre. Voyez-vous, une métaphore, c'est un mot qui n'est pas à sa place. C'est une monstruosité pour l'amoureux de la langue académique. Bon, justement. Et puis vous savez qu'il y a tout un débat, lisez Jean Paulhan, hein, sur le terrorisme en littérature. Il y a eu une période où on disait, comme toutes les métaphores, elles sont magnifiques quand on les produit, quand quelqu'un la sort, c'est un mot d'esprit, c'est un lapsus, une métaphore. Et puis, quelqu'un l'entend, il va la répéter. Voilà. Là, il y a de la transmission. C'est le seul endroit où il y a de la transmission. C'est ça, rien de religieux. Dans tous les autres domaines, on parle de transmission, c'est du pipeau. Lacan, quand il met la transmission au cœur de la passe, c'est de voir s'il se produit ça. C'est-à-dire que quelqu'un raconte quelque chose, les autres le répètent. Ils vont le répéter. Bon. Eh bien, ce mot, ensuite, quand il va être répété, tellement répété, il va s'user. Vous connaissez la formule, métaphore vive, hein, métaphore éteinte. Bon. Et puis justement, dans l'analyse, on essaye de ranimer les métaphores, de redonner cette dimension de vivace à la métaphore. Bon. Et Paulhan, il a écrit sur la guerre entre ceux qui sont contre la métaphore, contre les romantiques, le terrorisme en littérature. C'était les fleurs de Tarbes, c'est le titre de Paulhan, c'est une réflexion de Paulhan qui essaye de suivre le mouvement comme ça dans notre époque, qui essaye d'être moderne, qui essaye d'être contemporaine à elle-même, et qui, voyez-vous, est prise comme ça, tout à coup, comme ça, d'une sorte de terrorisme qui consiste à dire que plus de métaphores, parce que toutes les métaphores sont éculées. C'est vrai que les métaphores, très vite, deviennent. C'est même pour ça qu'il y a des académiciens, hein, parce que vous voyez, la sagesse des nations fait que. C'est les révolutionnaires, les monstres littéraires qui deviennent, qui font des trucs à la langue qu'il ne faut pas faire, d'après la règle établie à un moment donné, hein, qui s'appelle académique. Et que l'académisme, avec ses idées rigides, essaye de faire un métalangage pour faire croire au pouvoir. Alors que le littérateur, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose à la langue, et puis c'est à lui qu'on va confier l'académie, on va ensuite le mettre académicien, pour qu'il soit le garant de la langue pour la génération d'après. Bon. Alors il y a des moments où l'académie sera jeunie, il y a des moments où elle vieillit, elle s'encrousse, elle s'encroute, elle se crispe. Bon. Mais vous voyez que c'est pas là, pour nous la question, c'est que justement nous sommes dans la psychanalyse, nous devons apprendre justement ou réapprendre à aller jusqu'au plus extrême du dogmatisme et de l'écriture silencieuse et revenir de cette écriture pour en parler. C'est pas une expérience de mystique chrétien. C'est bien que Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse, ils essayent de nous raconter la montée au Carmel, la nuit obscure, mais justement, ils ne sont pas allés jusqu'au baptême. Alors, ils n'arrivent pas. Vous voyez, lisez Saint Jean de la Croix, c'est quand même pathétique. Vous verrez que vous avez deux livres écrits par le même sujet, le même. Il a un poème mystique qu'il a imaginé dans sa cellule à Tolède. Il essaye de l'expliquer aux autres et il n'y arrive pas.